Une réaction, Jacques Attali, vous nous avez déjà dit que vous étiez en partie en désaccord avec la politique menée vis-à-vis de l'immigration et du droit d'asile, mais plus largement, est-ce que la méthode du macronisme, c'est le consensus, voire le faux consensus ?
Non, je reviens sur ce que vous venez de dire à l'instant, parce que je suis d'accord avec, malheureusement, avec ce que vous venez de dire, mais j'ajouterais ceci, je crois que la distinction d'aujourd'hui, c'est entre procrastiner et agir. Vous pouvez être centriste et rien faire, ce qui a été le cas des centristes pendant 40 ans, ou vous pouvez être au centre et rassembler toutes les réformes qui sont possibles et les faire. Or, je crois qu'on est dans une sorte de parenthèse dans la société française où la gauche, depuis 1986, à mon avis je date ça à ce moment-là, n'a rien fait, et où la droite, depuis la même époque, n'a rien fait non plus. Et les Français, brusquement, ont accumulé un besoin de réformes de gauche et de droite qui n'ont pas été faites, et il y a brusquement une équipe qui le fait. Bon. Donc, c'est une sorte de, ce que j'espère pour ma part être une parenthèse idéologique, une parenthèse, parce que sinon ce serait épouvantable pour la démocratie, où toute une série de réformes qui étaient évidemment nécessaires, mais que ni la gauche ni la droite n'ont osé faire, se font. Après, est-ce qu'on retournera à une procrastination de gauche ou à une procrastination de droite ou à une action de gauche ou une action de droite? François Mitterrand était un acteur de la gauche. Il agit par la gauche. Jacques Chirac était un procrastinateur de droite et il n'a rien fait à droite. Et on peut ensuite nommer les uns et les autres selon ce genre d'étiquette. Mais toute la question est de ne pas... Et le danger pour la démocratie, c'est quand la gauche n'agit pas à gauche et quand la droite n'agit pas à droite. Et là, il y a quelqu'un qui agit en prenant ensemble tout ce qui n'a pas été fait.
Frédéric Saïs. Alors, il y a quand même un paradoxe dans ce que vous dites. Vous dites à la fois qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de réformes qui sont engagées et selon vous nécessaire, mais vous dites aussi que c'est une parenthèse qui va se refermer comme si cette période-là n'allait pas être prolongée par les Français
À un moment ou un autre. Emmanuel Macron peut être élu, mais de toute façon, au bout de 10 ans, il sera à la place.
C'est la Constitution qui le dit.
Voilà. J'espère en tout cas, parce que si ça continue trop longtemps, au-delà de deux mandats, s'il faut deux mandats pour faire tout ça, la seule opposition sera un extrême, et ça sera extrêmement dangereux. Donc, moi, j'encourage la renaissance de partis de gauche et de droite démocratique de façon à ce que ça renaisse. Mais pour que ça renaisse, il faut que ça renaisse avec des programmes. Moi, je suis triste de voir le débat des socialistes aujourd'hui, qui est un débat de personnes et non pas un débat de programme. En tout cas, tel que je l'entends, peut-être que j'entends mal. Et à droite, c'est encore pire. Donc, pour moi, le moment est une refondation doctrinale. Qui doit conduire ensuite à une refondation programmatique.
Mais au-delà de ça, on n'est pas nécessairement d'accord avec les réformes qui sont mises en œuvre. Vous avez beaucoup insisté lors de cette commission, dite commission Attali, sur la destruction des rentes, par exemple. On voit aujourd'hui...
La remise en cause, destruction, c'est un mot
excessif. C'est vrai, le terme est fort. En tout cas, on voit aujourd'hui, par exemple, que dans la réforme de la SNCF, il y a un certain nombre de mots-clés qui sont des mots constants, par exemple, la destruction d'un certain nombre d'avantages perçus comme trop importants alors qu'ils ne le sont pas nécessairement, et le fait de dire que la concurrence est bonne, toutes ces choses-là, par exemple, sont profondément discutables. Vous êtes, par exemple, d'accord avec cette réforme de la SNCF,
tout ça doit être en débat. Il me semble que l'égalisation progressive des conditions de départ à la retraite dans le pays est une mesure de justice sociale qui est absolument nécessaire. Le fait de faire en sorte que les statuts des uns et des autres, non pas de ceux qui sont là en fonction, mais qu'on ne peut pas remettre en question le statut de ceux qui ont un statut, c'est pour les générations futures, pour l'avenir, que le statut représente plus la nature des fonctions, c'est-à-dire soit plus mobile pour les générations suivantes, comme on a fait dans certains cas, que nous avions proposé dans la commission d'ailleurs, que pour l'avenir, et non pas du tout pour les personnels en place, on puisse recruter davantage avec plus de mobilité, ça me paraît tout à fait nécessaire.
Mais le fait que finalement il faille que tout change tout le temps dans le macronisme, j'ai même vu hier une
déclaration... Mais ça fait 30 ans que rien ne change, c'est pas tout change tout le temps, ça fait 30 ans que ce pays...
Mais peut-être parce qu'il y a des gens qui ont légitimement peur que les choses changent, et je ne parle pas seulement des gens qui sont des dominants ou ont des rentes, je veux dire il y a aussi des individus qui ont de petites retraites, qui veulent continuer
absolument,
d'être à la retraite.
Absolument. C'est tout à fait vrai. Il faut simplement regarder les choses. Notre pays est en train ou était en train de reculer sur tous les plans. Nous étions la première puissance agricole d'Europe, sinon du monde. On est derrière les Allemands. Nous étions une des premières puissances en matière de recherche, en particulier en matière d'informatique. On est nulle part. Dans les grandes technologies de demain, les drones, la recherche en génétique, on est nulle part. Donc il y a un moment où la renaissance, la création d'entreprises, les start-up, la création d'emplois, la vie dans les quartiers, on est nulle part. Le chômage des jeunes qui n'ont pas de formation, on est nulle part. Il y a un certain nombre de conforts du passé qui sont suicidaires et dans lesquels il faut sortir.
Mais regardez, si on prend précisément la SNCF, le gouvernement a noirci le tableau à dessein. Il l'a d'ailleurs plus noirci que le rapport Spinetta. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport Spinetta, Jacques Attali, mais ce rapport finalement dit qu'on a un rail plutôt en bon état, plutôt moins cher que nos voisins, et on nous explique qu'il y a péril en la demeure. Si tout est fait sur ce mode-là, est-ce que...
Je ne suis pas entré dans le détail de cette réforme, donc je ne vais pas la commenter. Je vous dis de façon plus générale que y a des moments où il faut agir vite, puisqu'ensuite on peut pas agir. Alors est-ce que évidemment, si on fait des erreurs en agissant vite, on fait des erreurs, on les paye. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ne pas agir est une erreur.
On a parlé de présidence jupitérienne, pardon. On a parlé de présidence également restaurant, un certain nombre de gestes qui peuvent rappeler François Mitterrand, que vous avez bien connu, Jacques Attali. Et puis, on a, semble-t-il, une certaine incapacité chez Emmanuel Macron à recevoir la critique. Qu'en pensez-vous ?
Je ne sais pas. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Je le connais peut-être assez bien, et je le sens tout à fait capable d'entendre des critiques. Au contraire, c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute et d'apprendre énorme.
Alors vraiment, énorme. Pourquoi a-t-on l'impression donc, que la presse est verrouillée, qu'il y a...
Écoutez, la presse est verrouillée.
Mise à la porte du palais de l'Élysée. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire.
Mise à la porte, non.
Une question qui l'agace en Inde.
Oui, mais c'est
on est là aussi pour poser des questions aux idiots. Vous savez, les journalistes.
Oui, bon, très bien.
Ouais, parfois, obligés d'être brillants.
Parfois, il nous arrive à tous, vous comme nous, moi, je suis pas un homme politique, mais il m'arrive de m'énerver quand une question m'irrite. Bon, mais parfois, on se maîtrise pas et on dit son irritation. C'est pas non. La France, si on la compare aux autres pays, est une démocratie dans laquelle je trouve que le pouvoir politique respecte la presse. Maintenant, la presse ne se gêne pas pour dire tout ce qu'elle pense du politique. Et je pense que c'est très bien ainsi. D'ailleurs, les politiques dont je ne fais pas partie, parce que je les vois de l'extérieur, la première chose qu'ils font, c'est de lire la presse. Ils l'écoutent vraiment. Ils apprennent énormément des critiques. Peut-être parfois, ils protestent contre le fait que la critique les gêne, mais ils en retiennent beaucoup.
La réduction du droit d'amendement, là aussi, on a l'impression que le macronisme n'aime pas ce qu'il considère comme étant les bavardages. On pense au philosophe Jacques Rancière qui parlait de ceux qui trouvent que la démocratie s'abîme dans le bavardage, alors que précisément la démocratie c'est
oui,
aussi du bavardage.
Oui, mais bien sûr, non, la démocratie c'est pas du bavardage. Non.
Aussi, j'ai
non,
dit.
Non, c'est construire les choses. Tout droit est nécessaire. Le droit d'amendement est évidemment absolument fondamental. Mais quand il est utilisé comme il a été depuis 30 ans trop souvent, moi je l'ai vu il y a très longtemps pour faire de l'obstruction. Comme étant des amendements, on sait très bien qu'ils ne vont même pas être discutés parce qu'ils n'ont aucun sens. Non, ça n'a pas de sens. C'est même faire être fossoyeur de la démocratie que de faire cette caricature.
Et puis, il y a d'autres dangers. Alors, vous nous avez rappelé tout à l'heure la date de naissance du téléphone portable et de l'ordinateur individuel, mais malgré tout, les GAFAM n'avaient pas cette puissance-là. Il y a la volonté de taxer les GAFAM. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé hier. Et justement, vous publiez un thriller, Meurtre en toute intelligence. Peut-être nous résumer le propos de ce thriller. Jacques Attali.
Le roman policier est une merveilleuse façon de raconter des histoires, et j'adore raconter des histoires, et des histoires policières, et aussi de faire vivre de l'intérieur un domaine. Là, c'est un roman policier qui se passe dans 6 mois à Paris, où le patron d'une très grande boîte de technologie américaine est assassiné dans une chambre d'un grand palace parisien, et on cherche à comprendre pourquoi, parce que la chambre était complètement fermée, personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Et on s'aperçoit qu'il était en train de négocier le rachat d'une entreprise française, et que tout ceci nous ramène à découvrir des technologies effrayantes. Alors ça se passe dans une France un peu imaginaire, avec un président de la République qui n'est pas celui qui est aujourd'hui au pouvoir, mais dans une circonstance de géopolitique qui pourrait arriver dans 6 mois, que j'essaie de décrire.
Pourquoi pourrait-elle arriver dans 6 mois ?
Il faut lire le roman pour voir ce qui peut
vous
se passer.
Vous ne voulez pas le spoiler.
Voilà. Mais en même temps, j'essaie de décrire des technologies, en particulier celles de l'intelligence artificielle, qui vont arriver, qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver, et des technologies de drones qui sont tout à fait effrayantes et qui peuvent jouer un rôle géopolitique majeur dans lequel nous n'avons pas encore pensé, je pense en particulier en matière de défense, à prendre acte de ces nouvelles menaces, de ces nouvelles armes, tant pour nous en défense qu'en attaque, qui peuvent jouer un rôle très important. Et un roman policier est une formidable façon d'abord de raconter une histoire, d'entraîner le lecteur dans une aventure, mais aussi de faire toucher du doigt des enjeux technologiques absolument majeurs.
Alors justement, ces enjeux technologiques, qu'est-ce qu'il nous faudrait saisir aujourd'hui, Jacques Attali, selon vous, en la matière ?
Tout ce qu'on appelle, à tort à mon avis, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire toutes les technologies du numérique le plus avancé aujourd'hui, doivent être beaucoup plus avancées et étudiées en matière de recherche. Nous n'avons pas assez de moyens de recherche, tant dans les entreprises privées que dans les entreprises, que dans les laboratoires publics dans ce domaine. Tout ce qui est le développement des drones n'est pas assez développé. Et en particulier, nous n'avons pas l'équivalent américain d'une structure qui s'appelle aux États-Unis la DARPA, ou avec son annexe, l'ARPA, qui aide les technologies d'avant-garde, très avant-garde, et qui aujourd'hui ne sont pas du tout assez financées. Je pense aux technologies des neurosciences, de nanotechnologie et des architectures de systèmes qui sont vraiment aujourd'hui entre les mains des GAFA dont vous parliez ou de leurs équivalents chinois.
Votre thriller, puisque c'est ce que vous avez écrit, Meurtre en toute intelligence, Jacques Attali, c'est la forme que vous avez choisie, décrit un monde assez inquiétant avec des patrons de GAFAM qui ne sont pas des philanthropes.
En effet.
Un lien avec ce que vous avez observé dans le monde réel ?
Bien sûr. Il y a à la fois des gens qui sont des milliardaires, qui sont à la fois milliardaires et philanthropes, ça existe. Et puis vous avez pour l'essentiel des gens d'un très grand cynisme qui pensent qu'au profit qu'ils vont faire et à la puissance qu'ils vont en retirer. La logique du système reste la logique du système. Elle tourne autour du pouvoir et de l'argent. Et aujourd'hui, ce pouvoir et cet argent, il faut bien voir. En gros, le chiffre, c'est que l'ordre de 85% des efforts de recherche en matière d'intelligence artificielle se partagent entre les États-Unis et le Japon et la Chine. Nous en sommes totalement, nous, Européens, exclus. Donc un grand effort. C'est pourquoi, d'ailleurs, la proposition française que les Allemands ont repris et que j'espère va se faire d'une agence européenne des technologies d'avenir qui soit à la fois militaire et civile, me paraît si fondamentale, à condition qu'elle soit puissante et largement financée, permettrait de donner à l'Europe la place qu'elle mérite.
Mais lorsque vous évoquez ces grands méchants patrons, alors on voit bien sur le plan de l'évasion fiscale aujourd'hui ce qui est en œuvre de la part de ces multinationales. Est-ce qu'il y a aussi d'autres risques, des risques politiques,
oui,
des
sûr.
Risques en vie privée ? On voit bien aussi Jacques Attali.
Il y a des risques politiques et il y a des risques en vie privée. Dans le roman, je ne veux pas en dire plus, mais on voit apparaître un risque énorme, très particulier, qui peut être gigantesque sur la démocratie et sur la réalité du pouvoir, qui peut basculer entre les mains de quelques entreprises ou quelques patrons d'entreprises qui auraient acquis un pouvoir sur des technologies très très particulières qui peuvent vraiment terroriser le monde et faire basculer le pouvoir hors de la politique, c'est l'objet du roman. Au-delà de cela, il est clair que tout ce qui se joue en ce moment avec le fait que toutes les données sont en train de passer d'entre les mains privées, que les États n'ont plus le contrôle, que les monnaies elles-mêmes, et c'est ce qui se joue avec la blockchain et le bitcoin, montrent que nous sommes en train de basculer de monnaies d'État à des monnaies d'entreprise. C'est ça le blockchain. C'est le fait que les entreprises sont en train de prendre, les grandes entreprises comme GAFA sont en train de prendre le pouvoir sur un des ultimes éléments de la souveraineté qui est la monnaie. Reste pour eux à prendre le pouvoir sur l'autre ultime élément de souveraineté qui est la défense. Et c'est l'objet du thriller que de montrer que les entreprises pourraient aussi prendre le pouvoir sur la défense, c'est-à-dire se doter d'armées privées. J'attends demain matin ou dans 5 ans, qu'Amazon ou une entreprise chinoise déclare que les achats chez Amazon doivent se faire dans une monnaie Amazon.
Mais voilà. C'est étrange parce que depuis très longtemps que je vous lis, Jacques Attali, vous avez toujours été extrêmement pessimiste sur la nature du capitalisme, assez réaliste aussi sur la nature humaine, et pour autant, on pourrait vous dire que la conséquence immédiate de vos propos serait d'appeler à une régulation beaucoup plus forte
du
capitalisme.
D'abord, je ne suis pas pessimiste, je suis positif. C'est-à-dire, je ne suis pas optimiste béat, je ne pense pas que les choses vont s'arranger toutes seules. Et je ne suis pas pessimiste au sens où je pense que c'est perdu, c'est foutu, c'est réglé. Je pense que ça peut s'arranger. Je suis pour une régulation, je suis pour un état de droit global, planétaire, nécessaire, non seulement sur le domaine du climat où ça devient évident, mais je suis pour un état de droit beaucoup plus global. Il faut une taxe carbone planétaire, il faut des règles internationales, il faut, et nous avons dans la fondation que je préside, lancé l'idée d'états généraux de la planète pour mettre en place, et ça va apparaître bientôt, des propositions beaucoup plus concrètes pour mettre en place, par exemple, une charte éthique contraignante sur les GAFA et sur la maîtrise de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle internationale.
Mais sur le capitalisme, par exemple, la crise de 2008, vous aviez effectivement alerté sur un certain nombre de risques relatifs à la finance. Vous avez alerté sur le shadow banking, autrement dit des entreprises qui font office de banque sans en être et donc en s'exonérant d'un certain nombre d'obligations des banques. Tout ça, ça cadre finalement assez mal avec, par exemple, ce que l'on voit aujourd'hui au gouvernement. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de libérer un certain nombre de forces sans réguler.
Non, les régulations doivent être internationales. La libération de forces se fait en France telle qu'elle se fait en ce moment, se fait à l'intérieur de règles extrêmement contraignantes sur le domaine financier, en particulier avec l'action de l'AMF et toutes les agences de régulation et les régulations européennes. On peut même dire, et c'est très bien ainsi, que la régulation européenne est extrêmement contraignante et que les Américains ont fait une énorme pression pour que la régulation européenne soit contraignante, mais pour ne pas se l'appliquer à eux-mêmes. Et on se trouve dans une situation extraordinairement embarrassante où une régulation internationale imposée par les Américains ne s'applique qu'aux Européens. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu, le vrai problème est dans la dérégulation terrifiante du système financier et technologique américain.
Et justement, lorsque l'on voit les dernières mesures, par exemple la réforme fiscale qui a été mise en œuvre par Donald Trump et plus généralement l'inspiration de sa politique, votre sentiment, vous allez me dire que vous n'êtes pas pessimiste, mais là, votre constat est plutôt inquiet sur ce qui va suivre.
Enfin, tout est en place pour que M. Trump continue son aventure. Et vous savez, on est dans il y avait un homme politique français qui avait dit une phrase très profonde et qui n'est pas restée célèbre dans l'histoire en dehors de cette phrase. Il avait dit « Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre ». C'était M. Henri Cueil qui avait dit ça. Et c'est un peu ce que fait M. Trump. On avance, on fonce, on fait rien que faire des dettes et tout ça va se régler tout seul. C'est l'optimisme américain. C'est vrai que c'est arrivé parfois. Et c'est là l'importance du progrès technique. Est-ce que le progrès technique va avaler tous ces dettes, tous ces déficits? Il y a une petite chance que ça soit vrai. Je ne pense pas que ça soit certain. Si c'est vrai, tout ira bien. Si c'est pas vrai, on va assister alors à une situation où les populismes vont reprendre le pouvoir, où les pays vont dire, écoutez, cette mondialisation est une folie, chacun reprend son autorité. Là, c'est déjà le cas en Chine, qui s'est doté de dirigeants autoritaires, en Iran, en Turquie, en Russie, aux États-Unis, on peut faire la longue liste de ça. Et il y aura à ce moment-là une demande d'autorité forte, qu'on peut appeler populiste ou autre, qui mettra fin à la globalisation pour le malheur de tous.
Mais ces gouvernements populistes ne viennent pas de nulle part. Quand on voit par exemple la politique de Donald Trump, elle ne crée pas seulement des dettes, elle crée aussi des inégalités.
Elle crée, les inégalités étaient là.
Elles les accroissent.
Elles les accompagnent, elles les laissent se développer d'une façon obscène.
La politique fiscale, par exemple.
D'une façon obscène, absolument.
Alors, là-dessus, est-ce que vous n'avez pas peur que le macronisme, en supprimant une partie de l'ISF, en incitant à diminuer certaines rentes, accroisse encore les inégalités, Jacques Attali?
Disons que ne fait pour l'instant que les déplacer d'inégalités qui étaient au profit de gens qui avaient des rentes, au profit d'inégalités potentielles, au profit de gens qui créeront des richesses. C'est ça l'idée.
Mais une société doit être faite aussi pour ceux qui ne crée pas de richesse au sens capitalistique du terme.
Elle doit être faite pour créer les conditions pour que chacun puisse s'épanouir et réussir sa vie. D'où l'importance majeure, absolue, fondamentale de l'éducation et de l'éducation tout au long de la vie. Et de l'éducation à ce que j'appelle moi devenir soi, c'est-à-dire tout au long de sa vie être en situation de trouver ce qu'on a envie de faire et de réussir. Donc, si on déplace la possibilité de faire des richesses à la richesse héritée, de la richesse héritée ou de la richesse d'une rente, à une potentialité de richesse créée liée à l'innovation, à la créativité, aux produits nouveaux, à l'innovation sociale. Moi, je le vois dans la fondation dont je m'occupe, Positive Planet, nous avons entouré de jeunes qui font des initiatives sociales magnifiques. Là, c'est très bien. Moi, je fais l'apologie du risque et la contrepartie du risque, c'est le profit, à condition évidemment que ça soit ensuite réparti d'une façon juste.
Mais est-ce que justement ces gens qui ont voté Trump ne sont pas ces gens qui n'appartiennent pas à la classe créative, qui n'ont pas la faculté de se former?
Il n'y a pas de classe créative. Tout le monde est créateur si on lui donne les moyens par l'éducation.
Oui, sauf que en France, on voit des mécanismes extrêmement inégalitaires en matière d'éducation.
Oui,
pas
sûr.
Seulement avec les rentes sociales, avec des rentes culturelles aussi.
Oui, mais d'où l'importance de la réforme, la première qui a été faite, qui était aussi la première du rapport de la commission dont vous avez parlé tout à l'heure. Qui est le dédoublement des élèves dans les classes primaires, à condition qu'on n'habille pas Pierre en déshabillant Paul, et que ce ne soit pas un transfert. Tout ce qui sera fait, et qui aura de conséquences que dans 20 ans, pour créer les conditions que chacun puisse devenir créateur, et va dans le bon sens.
Toute la journée, nous allons, sur France Culture, tenter de faire un bilan sur les 10 mois de présidence Macron. A-t-il une chance de réussir, selon vous? Est-il en train de réussir, d'échouer?
Est-ce qu'il a une chance de réussir? Oui. Est-ce qu'il est en train de réussir? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Oui. Pour moi, ce qui manque, mais qui est encore rattrapable, c'est tout ce qui touche autour de l'empathie, et en particulier de l'empathie à l'égard de ceux qui nous sont étrangers.
Et alors, comment on pourrait faire concrètement, en quelques mots, pour développer cette empathie, plus, par exemple, d'exilés, d'immigrés reçus?
Il ne faut pas plus, il faut bien les accueillir.
Mais on en a très peu en France. Voilà. Chaque Attali, vous le savez bien, 25 000 personnes reçues.
Non, je sais très bien qu'on en a très peu. J'ai dit moi-même, on en a moins d'un pour mille. C'est vraiment dérisoire. Donc, je pense qu'il faut d'abord créer les conditions de bien recevoir pour créer les conditions d'une acceptation par la société française. Pour voir les chiffres, les Français croient que les immigrés ou les étrangers ou les exilés viennent en masse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut d'abord bien intégrer ceux qui viennent pour créer les conditions qu'arrive l'évidence qui nous sont utiles.
Une dernière question, si vous comparez la présidence Macron et la présidence Hollande, votre point de vue sur le bilan qu'on dresse de
Premièrement,
François Hollande.
Le bilan de François Hollande est très injustement traité. Il a fait beaucoup de choses formidables, très positives, et je pense que l'histoire lui donnera crédit pour tout ce qu'il a fait.
Par exemple
beaucoup de choses en politique étrangère ont été faites de façon très positive, et là on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais je pense qu'il y a des choses qui resteront comme précieuses.
Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir dressé donc de votre point de vue ce bilan des 10 mois de présidence d'Emmanuel Macron. Meurtre en toute intelligence, c'est le thriller que vous publiez aux éditions Fayard, une mise en scène d'un meurtre mystérieux sur fond de GAFAM. 8h46 sur France Culture.